monde il est bon, tout le monde il est gentil.
On en parle beaucoup, et de plus en plus au fur et à mesure que les conditions de recherche d'emploi se détériorent. Couplée avec les problèmes de l'immigration, la robotique semble soudain préoccuper de larges plans de la société qui, jusqu'alors, sont restés passablement indifférents face à cette question. Mieux, la robotisation fut souvent, et reste encore, célébrée lorsqu'il s'agit de croire que nos tâches jugées rébarbatives lui seraient réservées. Mais, loin d'être l'esclave qui se retourne contre son maître, dès le départ, la robotique a constitué à la fois assistance et menace à l'égard de nos modes de vie. Une première raison à cela peut être décelée et qui concerne le rôle d'assistance, en assumant des tâches auxquelles l'humain souhaite se soustraire. Deux points sont à considérer. Tout d'abord, si assistance il y a, cela veut également dire qu'il y a et aura dépendance entre l'humain et la machine qui l'assiste. L'humain se délestant d'une partie de la tâche, il s'en vivra forcément une perte d'autonomie du fait que, perdant progressivement intérêt et maîtrise pour cette tâche, viendra immanquablement le moment où il ne sera plus à même de l'effectuer. Dépendance donc à l'égard de la façon robotisée d'effectuer la tâche et des conséquences que cela entraînera inévitablement sur la façon d'exécuter l'ensemble du travail auquel se trouve intégrée cette tâche. Par exemple, la robotisation nécessitant les automatismes pour pouvoir fonctionner, cette obligation impliquera forcément en retour que l'humain accepte lui-même de se soumettre à des standards automatisés pour communiquer au robot les ordres pour effectuer la tâche. D'autre part, le fait de chercher à éviter certaines tâches rébarbatives constitue aussi un danger de son mécanisme propre. En procédant de la sorte, cette possibilité au privilège d'être épargné de l'effort d'exécuter une tâche jugée ingrate nous éloigne encore plus de notre condition humaine, qui ne peut et ne sera jamais un long fleuve tranquille. L'apprentissage de vie en est la meilleure preuve, et que toutes les formes de standardisation ne parviendront pas, de toute façon, à faire disparaître. En ce sens, la robotique est bien plus un tour d'illusion que de magie. Et si elle peut exercer sur nous un caractère magique, c'est justement parce qu'elle nous maintient dans cette illusion qu'elle nous simplifie la vie, pendant qu'elle nous la complique sans cesse. Nous restons béats devant la prouesse technologique, mais nous oublions une chose, et c'est que censée nous épargner certains efforts, elle nous en demande sans cesse d'autres, qui nous obligent à nous adapter en permanence aux caprices de son évolution. L'effort s'est déplacé et, au lieu d'être enrichissant d'expériences de maîtrise de difficultés, devient abrutissant à force de ne plus en proposer. L'apprentissage se résume à une suite de procédures sans cesse modifiées, où la seule évolution possible est la manière de peser sur le bouton, touche, souris, écran tactile, reconnaissance vocale, etc. Mais ce qui est peut-être plus grave encore, c'est que, nous demandons sans cesse de nouveaux efforts pour rester le plus longtemps possible assis, immobile devant des écrans et des robots qui s'agitent, le mouvement nous abandonne au profit des machines, nous laissant désœuvrés et inutiles et plus que jamais enclins à la paresse devant l'effort, pourtant utile. Ces efforts que l'on fera dans des salles de performance physique, dans des exercices de concentration méditatif, dans des loisirs sportifs, dans la prouesse d'originalité créative dans des espaces culturels, mais toujours spectaculaires, on ne les fera plus dans la discrétion d'une évolution personnelle en lien avec le travail à accomplir pour vivre au milieu des autres, avec la conscience d'un véritable effort accompli. Et tout cela sans même se demander ce que, au juste, peut bien signifier actuellement le terme de rébarbatif. Sans doute, pour la plupart d'entre nous, Le travail rébarbatif est celui qui ne demande ni intelligence, ni créativité, ni ingéniosité, et ni lien avec autrui. Ce vers quoi la robotique nous entraîne justement, dans une facilité qui se révélera de plus en plus pénible. On n'a que trop répété, actuellement, cette assertion qui tient le travail dans sa dépendance à une racine, tripalium, associant l'exercice du travail, mais quel travail, à celui de la torture. Il nous restera peut-être, dans les temps à venir, de savoir à quelle racine peut bien se rattacher l'oisiveté. En tous les cas, sous la forme détériorée avec laquelle nous la pratiquons actuellement le plus souvent. Comme en témoignent ces lignes, je pense, pour ma part, que la problématique du robot ne pose pas seulement la question des nouvelles formes du travail. Elle s'enracine dans un propos critique bien plus large. Et c'est sur différents de ces aspects plus larges que traite l'article « Le robot coupable idéal » écrit par Philippe Stab et Florian Boutolot et paru dans Le Monde diplomatique de décembre 2019. Ce texte est lu par Christophe Jobin.
Depuis le début des années 2010, une série de rapports alarmistes prophétise la disparition d'un tiers, voire de la moitié des emplois occupés par des humains et leur remplacement par des machines. À les croire, le robot serait l'ennemi numéro un du travailleur. Mais faut-il blâmer les nouvelles technologies ou les politiques économiques qui imposent bas salaires et délocalisation? Depuis que l'économiste John Maynard Keynes a imaginé dans un essai de 1930 un avenir où la mécanisation automatiserait 3 heures de travail chaque jour par roulement ou une semaine de 15 heures et permettrait de consacrer nos énergies encore disponibles à des buts non économiques, la question de l'automatisation n'a plus quitté le débat public. On la retrouve posée depuis quelques années sous l'appellation ronflante de « numérisation du monde du travail ». Un ensemble de technologies ouvrirait à vive allure de nouveaux champs au remplacement de l'humain par la machine. Dans les usines, des robots légers combleraient les dernières lacunes en la matière. Les systèmes en réseau de l'Internet des objets rationaliseraient les processus de production et les relations avec les clients. L'intelligence artificielle remplacerait les employés dans le secteur des services, avec pour horizon l'émergence d'une armée de chômeurs supplémentaires ou, comme l'avait pronostiqué Keynes, le chômage technologique dû au fait que nous découvrons des moyens d'économiser de la main-d'œuvre à une vitesse plus grande que nous ne savons trouver de nouvelles utilisations du travail humain. Pourtant, un examen circonstancié du paysage industriel réellement existant montre que ces technologies d'automatisation n'obtiennent que des succès limités. D'où provient alors la panique devant une hypothétique apocalypse sociale causée par les robots? Elle déroule notamment d'un formidable coup de marketing patronal autour de la quatrième évolution de la machine à vapeur, de l'électricité et de l'informatique que mèneraient divers pays. L'ère des machines intelligentes en réseau, capables de produire des marchandises uniques et personnalisées. Cette notion a notamment été popularisée par M. Klaus Schwab, le président du Forum économique mondial, WEF, de Davos. Sa déclinaison allemande baptisée Industrie 4.0 est présentée pour la première fois à un large public lors de la foire des technologies industrielles de Hanovre en 2011, illustre de manière spectaculaire la discordance entre les proclamations triomphales et la réalité. Ce n'est pas tant la puissance de l'industrie allemande qui motive la mise en œuvre de cette stratégie qu'un concours de circonstances. Dans le sillage de la crise financière de 2008, la politique monétaire de la planche à billets adoptée par les banques centrales, couplée à la perte de confiance dans les marchés financiers, a engendré un besoin de nouveaux domaines d'investissement. Le concept marketing de quatrième révolution industrielle y répond en proposant de transformer, grâce aux nouvelles technologies, la vieille salle des machines de la Société du Travail en fontaine de jouvence du capitalisme mondial. Développée initialement sous les auspices du WEF, cet ordre du jour est concrétisé en Allemagne avec d'autant plus de facilité que la structure industrielle nationale s'y prête particulièrement. Depuis, des armées de consultants s'emploient en populariser les éléments de langage sous la forme de conseils stratégiques aux entreprises ou d'onéreuses campagnes de sensibilisation du grand public pour le plus grand bonheur des cabinets de conseil McKinsey et consorts. Le remplacement du travail humain par des machines, que certains déplorent, n'est pour d'autres que l'envers des gains d'efficacité dont ils ont un besoin urgent. En ce sens, mauvais pour la société, chômage, est synonyme de bon pour les affaires, profit. Speed Factory, le bluff d'Adidas. Une nouveauté chassant l'autre, on observe dans l'univers du conseil une accélération fulgurante des débats. Si dans le récit enchanté de l'industrie 4.0, les trois premières révolutions industrielles s'étalaient sur plusieurs décennies, les choses se précipitent avec leur héritière numérique. En 2017, le Japon, pays hôte de la foire de Hanovre, présentait sa propre vision d'une société 5.0. Deux ans plus tard, cette audace paraît bien modeste. Le cabinet de conseil Accenture a lancé le mot d'ordre d'une industrie X.0, lire 10.0. Qu'il manque six révolutions industrielles entre les versions 4.0 et 10 n'intrigue apparemment personne. Cette succession de prétendues révolutions traduit peut-être une réaction de panique face à l'épreuve de la réalité. Les ingénieurs allemands produisent en effet bien moins d'innovations éclatantes que ne laissent compte les armées de consultants. Et, à l'examen, l'orientation fondamentale de l'industrie 4.0 ne comporte rien de véritablement neuf. Elle prolonge simplement une tendance à la rationalisation qui domine l'univers usinier depuis environ 40 ans. Automatisation toujours croissante de la production, combinée à un degré grandissant d'individualisation des produits. En point de mire de ce fantasme, une production entièrement automatisée qui livrerait des marchandises uniques au coût de la production de masse, dans la langue de l'industrie allemande, série de taille 1. On en est loin. La plupart des entreprises allemandes se montrent prudentes vis-à-vis de l'idée risquée et coûteuse de bouleverser des processus de fabrication bien rodés. Beaucoup redoutent que les dépenses ne soient pas équilibrées par des recettes plus élevées. En témoigne le cas de Münchimi Pumpen. Ce fabricant de pompes industrielles de Rhénanie du Nord-Westphalie, l'un des champions cachés allemands du marché mondial, a placé tous ses œufs dans le même panier et mis en œuvre toutes les applications industrielles 4.0 possibles. L'Internet des objets, machines connectées qui communiquent entre elles, un flux permanent de données, des systèmes d'assistance numérique au service des collaborateurs garantissent désormais une réponse flexible et rapide aux besoins des acheteurs. Théoriquement, les ouvriers peuvent aujourd'hui fabriquer 2 millions de modèles de pompes dans plus de 200 couleurs. Münchimi Pumpen a pu diversifier sa clientèle et en particulier s'émanciper des industries sidérurgiques et chimiques. Mais en fin de compte, cela ne lui rapporte pas plus d'argent. Les clients nous demandent des produits de plus en plus individualisés, mais ils ne sont pas prêts à payer plus cher, déclare le directeur de la société. Ce cas illustre un problème général du débat sur l'industrie 4.0. L'engouement médiatique et la focalisation sur la technologie amènent à perdre de vue l'utilité économique concrète. En effet, les entreprises ont tendance à ne pas introduire la technologie pour elles-mêmes, mais à rechercher le meilleur rapport entre coûts et bénéfices lorsqu'elles souhaitent modifier leur fabrication. Plutôt que par changements radicaux, elles procèdent alors par essais-erreurs à petite échelle, introduisant les nouvelles technologies dans les procédés existants. Plutôt que de considérer l'industrie 4.0 comme une stratégie cohérente à appliquer en bloc, leurs dirigeants préfèrent sélectionner les dispositifs qui leur conviennent dans un bouquet d'applications, comme la maintenance prévisionnelle, l'utilisation de systèmes d'assistance, le contrôle optique de la qualité. À côté de projets réussis, on observe d'ailleurs de nombreux cas où les bénéfices concrets font défaut, au point que des applications introduites à titre expérimental sont parfois démantelées. L'exemple le plus tonitruant se nomme Speed Factory, une usine conçue par Adidas comme un projet phare de l'industrie 4.0 dont le lancement en 2017 avait occasionné un branle-bas médiatique. Installés à Ansbach, en Bavière, et à Atlanta, aux États-Unis, ces sites fonctionnent de manière largement automatisée. La flexibilité de robots facilement reconfigurables permet d'approvisionner sans délai le marché avec des confections spéciales différentes selon les villes. Un modèle pour Paris, un autre pour Londres, New York, etc. L'entreprise a souvent fait de cette vitrine le témoin annonciateur d'une ère nouvelle. « Quand j'ai rejoint Adidas en 1987, expliquait en 2016 son directeur général, la production venait d'être délocalisée en Asie. Maintenant, le cercle se referme et la production revient. » En réalité, Ce retour au pays ne concernait au mieux que 500 000 paires de chaussures par an, soit environ 0,5% du volume de production mondiale d'Adidas. Le groupe n'envisageait pas de relocaliser l'ensemble des capacités de production, et pour cause. Le prix d'une paire de chaussures usinées à la Speed Factory oscille entre 250 et 350 euros. En effet, la fabrication hautement automatisée de petites séries reste coûteuse. Elle n'est rentable que pour une offre de niche, réserve une clientèle aisée, en complément de la gamme destinée au grand public. Loin d'incarner l'avenir de la production manufacturière, la Speed Factory se comprend comme un argument de marketing destiné à améliorer l'image d'une marque qui se veut capable de saisir rapidement les tendances, voire de les façonner. Le 11 novembre dernier, Adidas annonçait d'ailleurs la fermeture des deux sites au printemps prochain et leur délocalisation en Asie, où deux fournisseurs adopteront les nouveaux procédés de fabrication. Quand bien même l'objectif général de la série de taille 1 serait autre chose qu'un doux rêve d'ingénieur, ce qui est peu probable, il faudrait s'interroger. Les entreprises manufacturières ont-elles vocation à offrir des produits individualisés ? Ce créneau est déjà occupé par les géants du commerce en ligne, qui livrent aujourd'hui une vaste sélection de produits directement à domicile dans les plus brefs délais. Monsieur Jack Ma, le patron sortant d'Alibaba, a récemment formulé l'objectif ainsi, livrer n'importe quel produit, n'importe où dans le monde, dans un délai de 72 heures. La variante chinoise de la série taille 1 pourrait s'avérer plus efficace que le projet complexe d'une usine intelligente. Éluder les questions gênantes. Présenté comme une nécessité économique, voire comme une fatalité historique, le choix de l'automatisation reste avant tout lié à une politique, celle de la mondialisation, elle-même mise en œuvre dans les années 1990, en s'appuyant sur les technologies numériques. Dans ce cadre, blâmer les robots dispense de mettre en cause les grandes orientations économiques. Largement surestimé, le chômage technologique qu'évoquait Keynes fait office de diversion aux dévastations du capitalisme réellement existant. Les études qui prennent en compte non seulement la substitualité théorique entre humains et machines, mais également l'évolution du contenu du travail et l'émergence de nouveaux emplois, contredisent les attentes des médias en matière de remplacement des travailleurs par des robots, et suggèrent même la possibilité d'une augmentation de l'emploi. Reste à déterminer pour quel salaire, dans quelles conditions et pour quelle production, question politique s'il en est, mais que beaucoup souhaiteraient éluder. Comme on l'observe depuis quelques années déjà aux États-Unis, ce sont surtout des anciens apologistes du capitalisme financier et de la mondialisation qui, dans l'arène politique, vilipendent aujourd'hui l'automatisation numérique à l'image du fondateur de Microsoft, Mr. Bill Gates, ou de l'ancien économiste en chef de la Banque mondiale et ancien secrétaire américain au Trésor, Lawrence Summers. À les entendre, les salariés précarisés, sous-payés ou privés d'emploi serait victime d'impératifs technologiques anonymes, qui désigne aujourd'hui comme coupable robot, veut détourner l'attention du triste bilan de ses propres décisions.
À la conception de l'émission, à la réalisation et à la mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Éditeur responsable, Patrick Rion. En partenariat avec Radio Django, qui permet la diffusion des émissions de Tout le monde est beau.